d'Europe, Léa Lisa Vesterov.
Elle représente toute l'histoire de l'Europe, notre maison commune avec nos amis britanniques. Ce sont les mots de la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. Avec la disparition d'Elisabeth II, la doyenne des têtes couronnées en Europe, c'est une page de l'histoire mondiale qui se tourne. Jamais aucun souverain britannique n'avait régné aussi longtemps qu'Elisabeth II, montée sur le trône le 6 février 1952 à 25 ans. Près de 7 décennies passées à la tête de la Grande-Bretagne, 70 ans traversés par les crises au 20e puis au 21e siècle. La première en 1936, lorsque son oncle Édouard VII abdique, la toute jeune princesse devient soudain l'héritière de la couronne. Elle n'a que 10 ans, sa vie bascule et à 14 ans, Elisabeth prononce son premier discours à la radio britannique. Retour en archives sonores sur le destin exceptionnel d'Elisabeth II avec Juliette Rangeval.
My sister Margaret Rose and I feel so much for you.
Elisabeth apprend petit à petit son métier de reine pendant la guerre. Elle effectue son premier engagement royal seul en 1942 en inspectant le bataillon de chars des grenadiers en sa qualité de colonel en chef honoraire le jour de ses 16 ans.
Princess Elizabeth, just a week before her 17th birthday, had come to inspect the Grenadiers, the regiment of which she is colonel in chief.
Elle rejoint ensuite les auxiliaires féminines de l'armée de terre, apprend à conduire jeep et ambulance et devient mécano.
Taking a driving course at a training center is Princess Elizabeth, 2nd Subaltern ATS.
Pour les Alliés après 5 ans de guerre, c'est l'heure de la victoire annoncée aux Britanniques par leur Premier ministre Winston Churchill. C'est le premier des 15 premiers ministres qui croiseront sa route.
Today is victory in Europe day. The German war is therefore at an end.
La reine est la seule chef d'État à avoir servi en uniforme durant la Deuxième Guerre mondiale. Elle sera couronnée à 25 ans. C'est le premier couronnement retransmis en direct à la télévision. Nous sommes en 1953.
God crown you with a crown of glory and righteousness, that having a right faith.
Elle devient alors reine du Royaume-Uni, de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et de ses autres royaumes, chef du Commonwealth. Cette organisation, bâtie sur les vestiges de l'Empire, rassemble les anciens dominions britanniques qui décident de s'unir tout en faisant allégeance à la couronne. Il rassemble une cinquantaine d'États que la reine, mariée au prince Philippe, va s'employer à visiter. Comme dans ce documentaire de 1966, lors de sa tournée dans les Caraïbes.
February 1966. And the beautiful islands of the Caribbean wait to welcome Her Majesty Queen Elizabeth II and His Royal Highness Prince Philip, Duke of Edinburgh, arriving for a 5-week voyage in the Royal Yacht Britannia.
Les affaires intérieures britanniques vont bientôt se rappeler à son souvenir. En octobre 1966, c'est la catastrophe d'Aberval.
A generation perished in Aberval.
Un glissement de terrain provoque la mort de 144 personnes à Aberval, un village minier du Pays de Galles. La plupart des victimes sont des enfants. Le Premier ministre Harold Wilson et le prince Philippe se rendent sur les lieux. Il faut attendre 8 jours pour voir la reine. C'est, dit-on, le plus grand regret d'Elisabeth II.
The Duke of Edinburgh, though inured to death and suffering in the war, was much moved.
La monarque règne, mais ne gouverne pas. La reine n'est pas autorisée à donner son opinion dans le cadre d'un débat politique. Elle est politiquement neutre, d'où la formule. Lors du discours du trône, elle lit la déclaration de politique que lui prépare son gouvernement. Le seul message qu'elle écrit elle-même, sans le contrôle du Premier ministre, c'est celui de Noël. Elle y fait généralement le bilan de l'année écoulée, comme ici en 1974.
We have never been short of problems, but in the last year, everything seems to have happened at once.
Mais les petites contrariétés de 1974 paraîtront bientôt dérisoires. En 1981, son fils Charles, le prince héritier, épouse Lady Diana Spencer. Un ouragan s'apprête à souffler sur la maison Windsor.
À 9h41, GMT, le carrosse de Lady Diana Spencer quitte Clarence House, la demeure de la reine-mère. Elle est accompagnée par son père, le 8e comte Spencer.
En 1992, la reine fête ses 40 ans de règne, mais la monarchie britannique est alors terriblement fragilisée par les scandales. La séparation de Charles et Diana, la biographie de la princesse de Galles écrite par Andrew Morton.
1992 is not a year on which I shall look back with undiluted pleasure. In the words of one of my more sympathetic correspondents, it has turned out to be an annus horribilis.
Et en 1997, le drame, la mort de Diana dans le tunnel du pont de l'Alma à Paris, le terrible accident de voiture alors que la princesse et son petit ami Dodi Al-Fayed sont poursuivis par les paparazzi.
This is BBC One.
We interrupt this film to tell you we are getting reports that Diana, Princess of Wales, has been badly injured in a car crash in France.
La reine ne voit pas, ne comprend pas l'émotion provoquée par la mort de celle que les Britanniques surnomment la princesse des cœurs. La monarchie mettra des années à s'en remettre. Il y aura d'autres crises, bien sûr. Meghan et Harry et les accusations de racisme structurel au palais, les scandales sexuels impliquant le prince Andrew. Mais Elisabeth II retrouve sa popularité, notamment au moment de la crise du Covid, cette guerre contre le virus que les Britanniques veulent gagner comme ils ont remporté hier la guerre contre les nazis.
Better days will return. We will meet again.
La dernière crise qu'aura surmontée la reine aura sans doute été la plus intime, le décès de son mari, Philippe, à 99 ans, un époux bien aimé qu'elle rejoint finalement.
Sous le règne d'Elisabeth II, l'Empire britannique s'est effondré, le Royaume-Uni est entré dans l'Union européenne et en est sorti, un règne synonyme de nombreuses crises, on l'a dit. Mais celle qui aura sans doute le plus marqué les Anglais, mais aussi la famille royale, c'est la mort de la princesse Diana le 31 août 1997. C'est en tout cas l'avis de Marc Roche, journaliste à Londres depuis 35 ans et spécialiste de la monarchie anglaise. Il est l'auteur de 3 biographies d'Elisabeth II. Il est au micro de Frédéric Lebel.
Elle a surmonté toutes les crises.
Quelles sont les pires crises qu'elle a surmontées selon vous ?
Ah, la pire crise a été en 1997, la mort de Diana, où la royauté prise une certaine langueur à cause des scandales de l'anus horribilis, du séparation, divorce, révélation sur le prince héritier, sa maîtresse et Diana, l'espèce de ménage à trois. La reine n'a pas su réagir à la hauteur de l'événement de la mort de sa bru.
Elle n'est pas revenue à Londres pour lui rendre hommage.
Elle a estimé que la reine a estimé que cette bru qui avait fait tomber la royauté de son piédestal, notamment en raison de son interview retentissante en 1995, dans laquelle elle remet même en cause l'ordre de succession, eh bien, sa disparition était une affaire privée et non pas une question régalienne, donc pas de funérailles nationales dans son esprit, elle ne rentre pas à Londres, alors que le peuple était vraiment bouleversé, et à ce moment-là, le mouvement républicain, qui généralement est à 10%, est monté à 20%.
Et aujourd'hui, on peut dire que la royauté britannique est à nouveau sur ses pieds ?
La royauté britannique aujourd'hui, en ce jubilé, est au zénith de sa popularité. Le taux d'approbation de la reine est de 80%. Prince William est de 60%. Prince Charles un peu plus bas, 50%. Et plus que jamais, après le Brexit, la pandémie, la guerre en Ukraine, la royauté apparaît aux Britanniques comme un point fixe dans la tourmente et aussi, et surtout, le symbole de l'unité nationale et enfin, le symbole du soft power, pouvoir d'influence.
Ce qui est assez cocasse dans cette royauté qui se présente comme la quintessence du royaume, c'est qu'elle n'est finalement pas si britannique, elle est aussi allemande, elle est aussi grecque.
La royauté britannique n'est pas britannique. Elle est à la fois européenne et planétaire. Elle est européenne parce qu'elle est allemande d'origine, avec des liens avec le Danemark, avec la Grèce, sans parler des liens avec les familles royales disparues. Mais elle est aussi planétaire parce que la reine est chef du Commonwealth, la grande famille d'outre-mer, les ex-dominions et les anciennes colonies. Et c'est une institution à laquelle, tout au long de son règne, elle a toujours été très attachée.
Et que dire du successeur de la reine Elisabeth II sur le trône ?
Le prince Charles devient roi immédiatement après la mort de la reine, même si le couronnement se déroulera entre 6 mois et 1 an. Mais vous savez, son règne sera court, parce que les relations entre le prince Charles et sa mère étaient compliquées en raison de son interventionnisme politique sur l'écologie, sur l'œcuménisme religieux, sur le racisme. Et la reine n'a jamais rien prononcé dans son message de Noël, qui est le seul qu'elle écrit de sa propre main, à ce propos. S'en est toujours tenu à des généralités. Donc, le règne du prince Charles sera court, et c'est ce que la reine voulait en abdiquant pas, parce que elle, ce qui compte, c'est le prince William, qu'elle a formaté à son image, conservatrice, traditionnelle, ménageant les usages établis. Donc, elle joue la continuité contre son fils, qui, lui, est le symbole de la modernité.
Et justement, vous pensez que la royauté britannique doit se moderniser, doit évoluer pour durer ?
Les Britanniques sont très monarchistes, malgré les crises qui ont émaillé le règne d'Élisabeth II, parce qu'ils n'ont connu la République sous Cromwell, et c'était un stalinien, ils en ont un très mauvais souvenir. Donc, la monarchie en tant que système est le socle institutionnel du Royaume-Uni. Mais la monarchie va devoir évoluer. Il est très clair que sous le prince Charles, et encore plus sous le prince William, elle ne pourra plus avoir tous ses châteaux, tous ses voitures, tout ce glamour. Mais la royauté britannique gardera toujours un éclat particulier parce qu'elle ne sera jamais une monarchie à bicyclette à la Scandinave ou à la Beneluxienne.
Merci beaucoup Marc Roche. La reine d'Angleterre a traversé tous les changements, toutes les époques, sans vaciller, en restant dans son rôle de monarque constitutionnel qui ne s'ingère pas dans les affaires du pays et qui ne dit jamais ce qu'elle pense. Mais si c'est sans doute là la recette de cette super popularité dans son pays, la monarchie s'est trouvée ces dernières années également confrontée à des critiques croissantes dans ses anciennes colonies, concernant notamment le passé esclavagiste de l'Empire britannique. Car tout monarque anglais est aussi chef du Commonwealth et donc de 14 autres royaumes, comme la Jamaïque, le Canada ou encore la Nouvelle-Zélande. Dans ces pays, la monarchie est de plus en plus critiquée. Après la Barbade l'année dernière, la Jamaïque a indiqué vouloir couper le cordon avec la couronne. Rappel d'un passé colonial, voire esclavagiste, trop douloureux, le pays veut devenir une république. Le reportage de notre correspondante à Londres, Marie Billon.
Le prince William et son épouse Catherine debout dans un Land Rover en train de passer en revue des militaires de l'armée de Jamaïque. Cette photo, prise lors d'une visite officielle à Kingston en mars dernier, a mis mal à l'aise beaucoup de citoyens britanniques. Le but, c'était de recréer l'image de la reine et du prince Philippe debout dans le même véhicule dans des circonstances similaires en 1954. Eh bien, l'effet a été complètement raté. Un autre cliché, impromptu cette fois, celui du couple princier serrant les mains de jeunes Jamaïcains à travers des fils barbelés. On ne le voyait pas sur les photos, mais le footballeur Raheem Sterling, avec eux, carné en Jamaïque, faisait de même. Et les barbelés servaient en fait de barrière autour d'un terrain de foot. Là encore, malaise devant ce cliché. Richard Fitzwilliams est historien spécialiste de la monarchie.
Le problème, c'est que ce genre d'image rappelle l'ère coloniale et donne l'impression que les mentalités n'ont pas changé dans la famille royale, ce qui est faux. Il y a eu pas mal de maladresses et des erreurs faites dans la planification et l'exécution de cette visite officielle.
Aux Caraïbes, le prince William a pourtant exprimé ses profonds regrets face à l'esclavage. C'était abominable, a-t-il dit, mais il n'a pas présenté les excuses que de nombreux habitants des pays qu'il a visités lors de ce voyage, la Jamaïque, le Belize et les Bahamas, réclament. Pour Corinne Fowler, professeure d'histoire coloniale à l'université de Leicester, c'est une occasion manquée.
Pourquoi ne pas s'excuser s'il pense sincèrement que c'était une horreur ? Pourquoi prendre tant de peine pour ne pas avoir à dire pardon ? Ça montre un manque de compréhension face au ressentiment et à la tristesse de ceux qui vivent encore avec les conséquences. On ne peut pas dire « le passé appartient au passé », car tout a encore des répercussions aujourd'hui. Discrimination, racisme, inégalité et pauvreté.
Pour la professeure, la monarchie devrait présenter des excuses et le faire avec le plus de précision possible, même si cela veut dire répondre à la demande d'excuses de la part des Premières Nations au Canada, mais aussi des descendants d'esclaves en Jamaïque. Car de la reine Élisabeth Ière au XVIIe siècle, qui prête un bateau au premier marchand d'esclaves anglais, à la reine Anne, qui au XVIIIe siècle profite personnellement de la vente de parts d'une compagnie pratiquant le trafic d'esclaves, en passant par Charles II dans les années 1660 qui accorde le monopole du commerce d'esclaves à la Compagnie royale africaine, les têtes couronnées ne sont pas historiquement innocentes. Corinne Fowler, à nouveau.
Il y a une implication claire et directe de la famille royale dans l'esclavage, y compris dans le soutien à l'idée de l'esclavage. Ce n'était pas les Windsor, la dynastie actuelle n'était pas forcément issue de la même lignée, mais c'est le concept de la famille royale.
Le parti conservateur au pouvoir au Royaume-Uni, lui, défend la reine. Elle n'est pas personnellement responsable de ses crimes et souvent, on lui demande de s'excuser pour des décisions prises par les gouvernements, comme l'internement des enfants, des familles, des Premières Nations au Canada, par exemple. C'est cet adage compliqué qui lie les mains et les langues des membres de la famille royale, explique Philip Murphy, professeur d'histoire à l'Université de Londres.
C'est très compliqué pour la famille royale, car elle ne peut pas aller plus loin que le gouvernement britannique. Le gouvernement ne veut pas offrir de compensation, et comme il ne veut pas se retrouver forcé d'offrir des compensations, je ne le vois pas présenter des excuses claires, car ça pourrait le mettre dans une position où il serait vulnérable face à des demandes légales de compensation.
De fait, précise Philip Murphy, la reine étant autant la souveraine d'Angleterre que de Jamaïque, elle pourrait se rendre à Kingston et demander des compensations à Londres, car elle est censée être autant conseillée par ses ministres britanniques que jamaïcains. Mais de fait, le palais ne laissera pas la souveraine se retrouver dans une position aussi chargée politiquement. Pour le professeur, ces voyages royaux pourraient donc se faire de plus en plus rares.
Je crois qu'on est arrivé à un moment où les problèmes causés par ces visites en termes de soft power et de diplomatie deviennent plus grands que les avantages. La solution est que ces pays deviennent des républiques. C'est à eux de prendre cette décision, bien sûr, et c'est ce que le palais répète depuis 60 ans. Buckingham Palace n'a jamais fait pression pour que ces royaumes conservent la reine comme chef d'État. Et le gouvernement de Londres s'est toujours tenu à l'écart de ces questions.
Pour sortir de la tutelle du Royaume britannique, plusieurs de ces pays doivent organiser un référendum pour changer leur constitution. Sauf, par exemple, l'île de Barbade, qui est devenue une république en novembre dernier. Mais beaucoup d'habitants estiment que leur quotidien n'en serait en rien modifié. C'est pour ça que, selon la professeure d'histoire coloniale Corinne Fowler, le débat sur les compensations, pas celui des excuses, est en train de s'éloigner de la famille royale.
CARICOM, une organisation composée de 15 pays caribéens, se concentre beaucoup sur le rôle des gouvernements. Le gouvernement de Londres a fait voter de nombreuses lois qui ont permis et promu l'esclavage sur plusieurs centaines d'années. CARICOM demande plutôt des fonds pour financer des centres de recherche afin que les Caraïbes aient les moyens d'étudier l'histoire de l'esclavage aussi bien qu'en Europe. Elle demande aussi l'annulation des dettes internationales parce que ça paralyse ces nations et les empêche de se développer. C'est entièrement injuste.
Lorsque le Premier ministre britannique de l'époque, David Cameron, s'était rendu en Jamaïque en 2015, il avait invité le pays à passer à autre chose, à dépasser sa douloureuse histoire. Depuis Black Lives Matter, on peut douter qu'un politique reprenne ce genre de discours.
Accent d'Europe à la réalisation Raphaël Belon. Retrouvez-nous dès demain ou en podcast sur votre plateforme d'écoute. Et tout de suite, juste après un journal Afrique consacré à la reine d'Angleterre et ses relations avec le continent, un grand reportage sur la monarchie britannique. Et bien sûr, RFI vous fait vivre cet événement historique avec une nouvelle édition spéciale dès demain à 5h en temps universel. À demain. I'd like to talk.